Première partie, chapitre 2, les mammouths et les aurochs. C'était à l'aube suivante. Le vent du haut soufflait dans la nue, tandis que, au ras de la terre et du marécage, l'air pesait, torride, odorant et chaud. Le ciel tout entier, vibrant comme un lac, agitait des algues, des nymphéas, des roseaux pâles. L'aurore y roulait ses écumes. Elle s'élargit, elle déborda en lagune de soufre, en golfe de béryl, en fleuve de nacre rose. Les oulamres, tournés vers ce feu immense, sentaient au fond de leur âme grandir quelque chose qui était presque un culte et qui gonflait aussi les petites cornemuses des oiseaux dans l'herbe de la savane et les oserais des marécages. Mais des blessés gémirent de soif. Un guerrier mort étendait des membres bleus. Une bête nocturne lui avait mangé le visage. Goun balbutia des plaintes vagues, presque rythmiques, et Faoum fit jeter le cadavre dans les eaux. Puis l'attention de la tribu s'attacha aux conquérants du feu, Ago et Nao, prêts à partir. Les velus portaient la massue, la hache, les pieux, la sagaie à pointe de silex ou de néphrite. Nao, comptant sur la ruse plutôt que sur la force, avait, à ses guerriers robustes, préférait deux hommes agiles et capables de fournir une longue course. Ils avaient chacun une hache, les pieux et des sagaies. Nao y joignait la massue de chêne, une branche à peine dégrossie et durcie au feu. Il préférait cette arme à toute autre et l'opposait même au grand carnivore. Faoum s'adressa d'abord à l'auroch. Agou est venu à la lumière avant le fils du léopard. Il choisira sa route. S'il va vers les deux fleuves, Nao tournera les marais au soleil couchant. Et s'il tourne les marais, Nao ira vers les deux fleuves. Agou ne connaît pas encore sa route, protesta le velu. Il cherche le feu. Il peut aller le matin vers le fleuve, le soir vers le marécage. Le chasseur qui suit le sanglier, sait-il où il le tuera? Agou changera de route plus tard, intervint Goun, que soutinrent les murmures de la horde. Il ne peut à la fois partir pour le soleil couchant et pour les deux fleuves. Qu'il choisisse! Dans son âme obscure, le fils de l'auroch comprit qu'il aurait tort, non de braver le chef, mais d'éveiller la défiance de Nao. Il s'écria, tournant son regard de loup sur la foule. Agou partira vers le soleil couchant. Et faisant un signe brusque à ses frères, il se mit en route le long du marécage. Nao ne se décida pas aussi vite. Il désirait sentir encore dans ses yeux l'image de Gamla. Elle se tenait sous un frêne, derrière le groupe du chef, de Goun et des vieillards. Nao s'avança. Il la vit immobile, le visage tourné vers la savane. Elle avait jeté dans sa chevelure des fleurs sagittaires et un nymphéa couleur de lune. Une lueur semblait sourdre de sa peau, plus vive que celle des fleuves frais et de la chair verte des arbres. Nao respira l'ardeur de vivre, le désir inquiet et inextinguible, le vœu redoutable qui refait les bêtes et les plantes. Son cœur s'enfla si fort qu'il en étouffait, plein de tendresse et de colère. Tous ceux qui le séparaient de Gamla parurent aussi détestables que les fils du mammouth ou les dévoreurs d'hommes. Il éleva son bras armé de la hache et dit « Fille du marécage, Nao ne reviendra pas, il disparaîtra dans la terre, les eaux, le ventre des hyènes. » Où il rendra le feu aux oulamres. Il rapportera à Gamla des coquilles, des pierres bleues, des dents de léopard et des cornes d'auroch. À ces paroles, elle posa sur le guerrier un regard où palpitait la joie des enfants. Mais Faoum s'agitant avec impatience. Les fils de l'auroch ont disparu derrière les peupliers. Alors, Nao se dirigea vers le sud. Nao, Gao et Nam marchèrent tout le jour sur la savane. Elle était encore dans sa force. Les herbes suivaient les herbes comme les flots se suivent sur la mer. Elles se courbaient sous la brise, craquaient sous le soleil, semaient dans l'espace l'âme innombrable des parfums. Elle était menaçante et féconde, monotone dans sa masse, variée dans son détail, et produisait autant de bêtes que de fleurs, autant d'œufs que de semences. Parmi les forêts de gramènes, les îles de genêts, les péninsules de bruyères, se glissait le plantain, le millepertuis, les sauges, les renoncules, les achillées, les silènes et les cardamines. Parfois, la terre nue vivait la vie lente du minéral. surface primordiale où la plante n'a pu fixer ses colonnes inlassables. Puis reparaissaient des mauves et des églantines, des gaulantes ou des centaurées, le trèfle rouge ou les buissons étoilés. Il s'élevait une colline, il se creusait une combe, une mare stagnée, pullulante d'insectes et de reptiles. Quelques rocs erratiques dressaient son profil de mastodonte. On voyait filer des antilopes, des lièvres, des saïgas, surgir des loups ou des chiens, s'élever des outardes ou des perdrix, planer les ramiers, les grues et les corbeaux. Des chevaux, des émionnes et des élans galopaient en bande. Un ours gris, avec des gestes de grand singe et de rhinocéros, plus fort que le tigre et presque aussi redoutable que le lion géant, rôda sur la terre verte. Des aurochs parurent au bord de l'horizon. Nao, Nam et Gao campèrent le soir au pied d'un tertre. Ils n'avaient pas franchi le dixième de la savane. Ils n'apercevaient que les vagues déferlantes de l'herbe. La terre était plane, uniforme et mélancolique. Tous les aspects du monde se faisaient et se défaisaient dans les vastes nues du crépuscule. Devant leur feu sans nombre, Nao songeait à la petite flamme qu'il allait conquérir. Il semblait qu'il n'aurait qu'à gravir une colline, à étendre une branche de pin pour saisir une étincelle au brasier qui consumait l'Occident. Les nuages noircirent. Un abîme pourpre demeura longtemps au fond de l'espace. Les petites pierres brillantes des étoiles surgissaient l'une après l'autre. L'haleine de la nuit souffla. Nao, accoutumé au bûcher des veilles, barrière claire posée devant la mer des ténèbres, sentit sa faiblesse. L'ours gris pouvait apparaître, ou le léopard, le tigre, le lion, quoiqu'ils pénétrassent rarement au large de la savane. Un troupeau de rocs immergerait sous ses flots la fragile chair humaine. Le nombre donnait aux loups la puissance des grands fauves, la faim les armait de courage. Les guerriers se nourrirent de chair crue. Ce fut un repas chagrin. Ils aimaient le parfum des viandes rôties. Ensuite, Noah prit la première veille. Tout son être aspirait la nuit. Il était une forme merveilleuse où pénétraient les choses subtiles de l'univers. Par sa vue, il captait les phosphorescences, les formes pâles, les déplacements de l'ombre et il montait parmi les astres. Par son ouïe, il démêlait les voix de la brise, le craquement des végétaux, le vol des insectes et des rapaces, le pas et le rampement des bêtes. Il distinguait au loin le glapissement du chacal, le rire de l'hyène, la hurlée des loups, le cri de l'orfraie, le grincement des locustes. Par sa narine pénétrait le souffle de la fleur amoureuse, la senteur gaie des herbes, la puanteur des fauves, l'odeur fade ou musquée des reptiles. Sa peau tressaillait à mille variations ténues du froid et du chaud, de l'humidité et de la sécheresse. Ainsi vivait-il de ce qui remplissait l'espace et la durée. Cette vie n'était point gratuite, mais dure et pleine de menaces. Tout ce qui la construisait pouvait la détruire. Elle ne persisterait que par la vigilance, la force, la ruse, un infatigable combat contre les choses. Nao guettait dans les ténèbres les crocs qui coupent, les griffes qui déchirent, l'œil en feu des mangeurs de chair. Beaucoup discernaient dans les hommes des bêtes puissantes et ne s'attardaient point. Il passa des hyènes avec des mâchoires plus terribles que celles des lions, mais elles n'aimaient point la bataille et recherchaient la chair morte. Il passa une troupe de loups, et ils s'attardèrent. Ils connaissaient la puissance du nombre, ils se devinaient presque aussi forts que les oulamres. Toutefois, leur faim n'étant pas excessive, ils suivirent des traces d'antilopes. Il passa des chiens, comparables aux loups. Ils hurlèrent longtemps autour du tertre. Tantôt ils menaçaient, tantôt l'un ou l'autre approchait avec des allures sournoises. Ils n'attaquaient pas volontiers la bête verticale. Jadis, ils campaient en nombre près de la horde. Ils dévoraient les rebuts et se mêlaient aux chasses. Goun fit alliance avec deux chiens auxquels il abandonnait des entrailles et des os. Ils avaient péri dans un combat contre le sanglier, car Faoum, ayant pris le commandement, ordonna un grand massacre. Cette alliance attirait Nao. Il y sentait une force neuve, plus de sécurité et plus de pouvoir. Mais dans la savane, seul avec deux guerriers, il en concevait surtout le péril. Il l'eût tenté avec peu de bêtes, non avec un troupeau. Cependant, les chiens resserraient le cercle. Leurs cris devenaient rares et leur souffle vif. Nao s'en émut. Il prit une poignée de terre. Il la lança sur les plus audacieux, criant Nous avons des épieuses et des massues qui peuvent détruire l'ours, le roc et le lion. » Le chien, atteint à la gueule et surpris par les inflexions de la parole, s'enfuit. Les autres s'appelèrent et parurent délibérés. Nao jeta une nouvelle poignée de terre. « Vous êtes trop faible pour combattre les oulamres. Allez chercher les sagas et détruire les loups. Le chien qui approchera encore répandra ses entrailles. » Éveillés par la voix du chef, Nam et Gao se dressèrent. Ces nouvelles silhouettes déterminèrent la retraite des bêtes. Nao marcha 7 jours en évitant les embûches du monde. Elles augmentaient à mesure qu'on approchait de la forêt. Quoiqu'elle fût à plusieurs journées encore, elle s'annonçait par des îlots d'arbres, par l'apparition des grands fauves. Les oulamres aperçurent le tigre et la grande panthère. Les nuits devinrent pénibles. Ils travaillaient longtemps avant le crépuscule à s'environner d'obstacles. Ils recherchaient le creux des tertres, les rocs, les fourrés. Ils fuyaient les arbres. Le 8e et le 9e jour, ils souffrirent de la soif. La terre n'offrit ni source ni mare, le désert des herbes pâlissait, des reptiles secs étincelaient parmi les pierres. Les insectes répandaient dans l'étendue une palpitation inquiétante. Ils filaient en spirale de cuivre, de jade, de nacre. Ils fondaient sur la peau des guerriers et dardaient leurs trompes âcres. Quand l'ombre du 9e jour devint longue, la terre se fit fraîche et tendre, une odeur d'eau descendit des collines, et l'on aperçut un troupeau de rocs qui marchait vers le sud. Alors Nao dit à ses compagnons, « Nous boirons avant le coucher du soleil. Les aurochs vont à l'abreuvoir. » Nam, fils du peuplier, et Gao, fils du saïga, redressèrent leurs corps desséchés. C'étaient des hommes agiles et indécis. Il fallait leur donner le courage, la résignation, la résistance à la douleur, la confiance. En retour, ils offraient leur docilité, plastique comme l'argile, enclins à l'enthousiasme, prompts à oublier la souffrance et à goûter la joie. Et parce que, étant seuls, ils se déconcertaient vite devant la terre et les bêtes, ils se pliaient à l'unité. Ainsi, Nao y percevait des prolongements de sa propre énergie. Leurs mains étaient adroites, leurs pieds souples, leurs yeux à longue portée, leurs oreilles fines. Un chef en pouvait tirer des services sûrs. Il suffisait qu'ils connussent sa volonté et son courage. Or, depuis le départ, leur cœur s'attachait à Nao. Il était l'émanation de la race, la puissance humaine devant le mystère cruel de l'univers, le refuge qui les abriterait, tandis qu'ils lanceraient le harpon ou abattraient la hache. Et parfois, lorsqu'ils marchaient devant eux, dans l'ivresse du matin, joyeux de sa stature et de sa grande poitrine, ils frémissaient d'une exaltation farouche et presque tendre, tout leur instinct épanoui vers le chef, comme le être vers la lumière. Il le sentait mieux qu'il ne le comprenait. Il s'accroissait de ces êtres liés à son sort, individualité plus multiple, plus compliquée, plus sûre de vaincre et de déjouer les embûches. Des ombres longues se détachaient de la base des arbres, les herbes se gorgeaient d'une sève abondante, et le soleil, plus jaune et plus grand à mesure qu'il glissait vers l'abîme, faisait luire le troupeau de rocs comme un fleuve d'eau fauve. Les derniers doutes de Nao se dissipèrent. Par-delà l'échancrure des collines, l'abreuvoir était proche. Son instinct l'en assurait, et le nombre des bêtes furtives qui suivaient la route des aurochs. Nam et Gao le savaient aussi, les narines dilatées aux émanations fraîches. « Il faut devancer les aurochs, » fit Nao, car il craignait que l'abreuvoir ne fût étroit et que les colosses n'en obstruassent les bords. Les guerriers accélérèrent la marche afin d'atteindre avant le troupeau le creux des collines. À cause de leur nombre, de la prudence des vieux taureaux et de la lassitude des jeunes, les bêtes avançaient avec lenteur. Les oulamres gagnèrent du terrain. D'autres créatures suivaient la même tactique. On voyait filer de légers saïgas, des égagres, des mouflons, des émionnes et transversalement une troupe de chevaux. Plusieurs franchissaient déjà la passe. Nao prit une grande avance sur les aurochs. On pourrait boire sans hâte. Lorsque les hommes atteignirent la plus haute colline, les aurochs retardaient de 1000 coudées. Nam et Gao pressèrent encore la course. Leur soif s'avivait. Ils contournèrent la colline, s'engagèrent dans la passe. L'eau parut, mère créatrice, plus bienfaisante que le feu même et moins cruelle. C'était presque un lac, étendu au pied d'une chaîne de roches, coupée de presqu'îles, nourrie à droite par les flots d'une rivière, croulant à gauche dans un gouffre. On pouvait y accéder par trois voies, la rivière même, la passe qu'avaient franchie les Oulamres et une autre passe entre les rocs et l'une des collines. Partout ailleurs croissaient des murailles basaltiques. Les guerriers acclamèrent la nappe. Orangée par le soleil mourant, elle apaisait la soif des grêles saïgas, des petits chevaux trapus, des onagres aux sabots fins, des mouflons à la face barbue, de quelques chevreuils plus furtifs que des feuilles tombantes, d'un vieil élaphe dont le front semblait produire un arbre. Un sanglier brutal, querelleur et chagrin, était le seul qui but sans crainte. Les autres, l'oreille mobile, les prunelles sautillantes, avec de continuels gestes de fuite, décelaient la loi de la vie, l'alerte infinie des faibles. Brusquement, toutes les oreilles se dressèrent, les têtes scrutèrent l'inconnu. Ce fut rapide, sûr, avec un air de désordre. Chevaux, onagres, saïgas, mouflons, chevreuils, élaphes, fuyaient par la passe du couchant, sous la verse des rayons écarlates. Seul le sanglier demeura, ses petits yeux ensanglantés virant entre les soies des paupières. Et des loups parurent, de grandes races, loups de forêt autant que de savane, hauts sur pattes, la gueule solide, les yeux proches et dont les regards jaunes, au lieu de s'éparpiller comme ceux des herbivores, convergeaient vers la proie. Nao, Nam et Gao tenaient prêts les pieux et la sagaie, tandis que le sanglier levait ses défenses crochues et ronflait formidablement. De leurs yeux rusés, de leurs narines intelligentes, les loups mesurèrent l'ennemi. Le jugeant redoutable, ils prirent la chasse vers ceux qui fuyaient. Leur départ fit un grand calme, et les Oulamres, ayant achevé de boire, délibérèrent. Le crépuscule était proche. Le soleil croulait derrière les rocs. Il était trop tard pour poursuivre la route. Où choisir le gîte? Les Orocs approchent, fit Nao. Mais au même instant, ils tournaient la tête vers la passe de l'ouest. Les trois guerriers écoutèrent, puis ils se couchèrent sur le sol. « Ceux qui viennent là ne sont pas des Orocs, » murmura Gao. Et Nao affirma. « Ce sont des mammouths !» Ils examinèrent hâtivement le site. La rivière surgissait entre la colline balsamique et une muraille de porphyre rouge où montait une saillie assez large pour admettre le passage d'un grand fauve. Les Oulamres l'escaladèrent. Au gouffre de la pierre, l'eau coulait dans l'ombre et la pénombre éternelle. Des arbres, terrassés par les boulis ou arrachés par leur propre poids, s'étalaient horizontalement sur l'abîme. D'autres s'élevaient de la profondeur, minces et d'une longueur excessive, toute l'énergie perdue à hisser un bouquet de feuilles dans la région des lueurs pâles. Et tous, dévorés par une mousse épaisse comme la toison des ours, étranglés par les lianes, pourris par les champignons, déployaient la patience indestructible des vaincus. Nam aperçut le premier une caverne. Basse et peu profonde, elle se creusait irrégulièrement. Les Oulamres n'y pénétrèrent pas tout de suite. Ils la fouillèrent longtemps du regard. Enfin Nao précéda ses compagnons, baissant la tête et dilatant les narines. Des ossements se rencontraient, avec des fragments de peau, des cornes, des bois d'élaphes, des mâchoires. L'autre se décelait un chasseur puissant et redoutable. Nao ne cessait d'aspirer ses émanations. « C'est la caverne de l'ours gris, » déclara-t-il. « Elle est vide depuis plus d'une lune. » Nam et Gao ne connaissaient guère cette bête formidable, les Oulamres rôdant aux régions que hantaient le tigre, le lion, l'auroch, le mammouth même, mais où l'ours gris était rare. Nao l'avait rencontré au cours d'expéditions lointaines. Il savait sa férocité, aveugle comme celle du rhinocéros, sa force presque égale à celle du lion géant, son courage furieux et inextinguible. La caverne était abandonnée, soit que l'ours y eût renoncé, soit qu'il fût déplacé pour quelques semaines ou pour une saison, soit encore qu'il lui fût arrivé malheur à la traversée du fleuve. Persuadé que la bête ne reviendrait pas cette nuit, Nao résolut d'occuper sa demeure. Tandis qu'il le déclarait à ses compagnons, une rumeur immense vibra le long des rocs et de la rivière. Les Orocs étaient venus. Leur voix puissante comme le rugissement des lions se heurtait à tous les échos de l'étrange territoire. Nao n'écoutait pas sans trouble le bruit de ces bêtes colossales, car l'homme chassait peu l'urus et l'auroch. Les taureaux atteignaient une taille, une force, une agilité, que leurs descendants ne devaient plus connaître. Leurs poumons s'emplissaient d'un oxygène plus riche, leurs facultés étaient, sinon plus subtiles, du moins plus vives et plus lucides. Ils connaissaient leur rang. Ils ne craignaient les grands fauves que pour les faibles, les traînards ou ceux qui se hasardaient, solitaires, dans la savane. Les trois oulambres sortirent de la caverne. Leurs poitrines tressaillaient au grand spectacle. Leur cœur en connaissait la splendeur sauvage. Leur mentalité obscure y saisissait, sans verbe, sans pensée, l'énergique beauté qui tressaillait au fond de leur propre être. Ils pressentaient le trouble tragique d'où sortira, après les siècles des siècles, la poésie des grands barbares. À peine sortaient-ils de la pénombre qu'une autre clameur s'éleva, qui transperçait la première comme une hache fend la chair d'une chèvre. C'était un cri membraneux, moins grave, moins rythmique, plus faible que le cri des aurochs. Pourtant, il annonçait la plus forte des créatures qui rôdaient sur la face de la terre. En ce temps, le mammouth circulait invisible. Sa stature éloignait le lion et le tigre. Elle décourageait l'ours gris. L'homme ne devait pas se mesurer à lui avant des millénaires. Et seul le rhinocéros, aveugle et stupide, osait le combattre. Il était souple, rapide, infatigable, apte à gravir les montagnes, réfléchi et la mémoire tenace. Il saisissait, travaillait et mesurait la matière avec sa trompe, fouissait la terre de ses défenses énormes, conduisait ses expéditions avec sagesse et connaissait sa suprématie. La vie lui était belle. Son sang coulait bien rouge. Il ne faut pas douter que sa confiance fût plus lucide, son sentiment des choses plus subtil qu'il ne l'est chez les éléphants avilis par la longue victoire de l'homme. Il advint que les chefs des aurochs et ceux des mammouths approchèrent en même temps le bord des eaux. Les mammouths, selon leurs règles, prétendirent passer les premiers. Cette règle ne rencontrait d'opposition ni chez les urus ni chez les aurochs. Pourtant, tels aurochs s'irritaient, accoutumés à voir céder les autres herbivores et conduits par des troupeaux qui connaissaient mal le mammouth. Or, les 8 taureaux de tête étaient gigantesques. Le plus grand atteignait le volume d'un rhinocéros. Leur patience était courte, leur soif ardente. Voyant que les mammouths voulaient passer d'abord, ils poussèrent leurs longs cris de guerre, le mufle haut, la gorge enflée en cornemuse. Les mammouths barrirent. C'étaient 5 vieux mâles. Leur corps était des tertres et leurs pieds des arbres. Ils montraient des défenses de 10 coudées, capables de transpercer les chaînes. Leurs trompes semblaient des pitons noirs, leurs têtes des rocs. Ils se mouvaient dans une peau épaisse comme l'écorce des vieux ormes. Derrière, suivait le long troupeau couleur d'argile. Cependant, leurs petits yeux agiles fixés sur les taureaux, les vieux mammouths barraient la route, pacifiques, imperturbables et méditatifs. Les 8 rocs, aux prunelles lourdes, aux dos en monticule, la tête crépue et barbue, les cornes arquées et qui divergeaient, secouèrent des crinières grasses, lourdes et bourbeuses. Au fond de leur instinct, ils percevaient la puissance des ennemis, mais les rugissements du troupeau les baignaient d'une vibration belliqueuse. Le plus fort, le chef des chefs, baissa son front dense, ses cornes étincelantes. Il s'élança comme un vaste projectile, il rebondit contre le mammouth le plus proche. Frappé à l'épaule, et quoiqu'il eût amorti le choc par une cinglée de trompe, le colosse tomba sur les genoux. Le roc poursuivit le combat avec la ténacité de sa race. Il avait l'avantage. Sa corne acérée redoubla l'attaque, et le mammouth ne pouvait se servir très imparfaitement que de sa trompe. Dans cette vaste mêlée de muscles, le roc fut la fureur hasardeuse. Un orage d'instinct que décelaient les gros yeux de brume, la nuque palpitante, le mufle écumeux et les mouvements sûrs, nets, véloces, mais monotones. S'il pouvait abattre l'adversaire et lui ouvrir le ventre, où la peau était moins épaisse et la chair plus sensible, il devait vaincre. Le mammouth en avait conscience. Il s'ingéniait à éviter la chute complète et le péril l'induisait au sang-froid. Un seul élan suffisait à le relever, mais il eût fallu que le roc ralentisse ses poussées. D'abord, le combat avait surpris les autres mâles. Les 4 mammouths et les 7 taureaux se tenaient face à face dans une attente formidable. Aucun ne fit mine d'intervenir. Ils se sentaient menacés eux-mêmes. Les mammouths donnèrent les premiers signes d'impatience. Le plus haut, avec un soufflement, agita ses oreilles membraneuses, pareilles à de gigantesques chauves-souris, et s'avança. Presque en même temps, celui qui combattait le taureau dirigeait un coup de trompe violent dans les jambes de l'adversaire. L'auroch chancela à son tour, et le mammouth se redressa. Les énormes bêtes se retrouvèrent face à face. La fureur tourbillonnait dans le crâne du mammouth. Il leva la trompe avec un baril métallique et mena l'attaque. Les défenses courbes projetèrent l'auroch et firent craquer l'ossature. Puis, obliquant, le mammouth rabattit sa trompe. Avec une rage grandissante, il creva le ventre de l'adversaire. Il piétina les longues entrailles et les côtes rompues. Il baigna dans le sang jusqu'au poitrail ses pattes monstrueuses. L'effroyable agonie se perdit dans un roulement de clameurs. La bataille entre les grands mâles avait débuté. Les sept aurochs, les quatre mammouths, se ruaient dans une bataille aveugle, comparable à ces paniques où la bête perd tout contrôle sur elle-même. Le vertige gagna les troupeaux. Le beuglement profond des aurochs se heurtait aux barils stridents des mammouths. La haine soulevait ses longs flots de corps, ses torrents de têtes, de cornes, de défenses et de trompes. Les chefs mâles ne vivaient plus que la guerre. Leur structure se mêlait dans un grouillement informe, une immense broyée de chair, pétrie de douleur et de rage. Au premier choc, l'infériorité du nombre avait donné le désavantage aux mammouths. L'un d'eux fut terrassé par trois taureaux, un deuxième immobilisé dans la défensive. Mais les deux autres remportèrent une victoire rapide. Précipités en bloc sur leurs antagonistes, ils les avaient percés, étouffés, disloqués. Ils perdaient plus de temps à piétiner les victimes qu'ils n'en avaient mis à les combattre. Enfin, apercevant le péril des compagnons, ils chargèrent. Les trois aurochs, acharnés à détruire le colosse abattu, furent pris à l'improviste. Ils culbutèrent d'une seule masse. Deux furent émiettés sous les lourdes pattes, le troisième se déroba. Sa fuite entraîna celle des taureaux qui combattaient encore, et les aurochs connurent l'immense contagion de la terreur. D'abord un malaise d'orage, un silence, une immobilité étrange qui semblait se propager à travers la multitude, puis le vacillement des yeux vagues, un piétinement pareil à la chute d'une pluie, le départ en torrent, une fuite qui devenait une bataille dans la passe trop étroite, chaque bête transformée en énergie fuyante, en projectile de panique, les forts terrassant les faibles, les véloces fuyant sur le dos des autres, tandis que les os craquaient, ainsi que des arbres abattus par le cyclone. Les mammouths ne songeaient pas à la poursuite. Une fois de plus, ils avaient donné la mesure de leur puissance. Une fois de plus, ils se connaissaient les maîtres de la terre. Et la colonne des géants couleur d'argile, aux longs poils rudes, aux rudes crinières, se rangea sur la rive de l'abreuvoir et se mit à boire de si formidable sorte que l'eau baissait dans les criques. Sur le flanc des collines, un flot de bêtes légères, encore effarés par la lutte, regardaient boire les mammouths. Les oulamres les contemplaient aussi dans la stupeur d'un des grands épisodes de la nature. Et Nao, comparant les bêtes souveraines à Nam et à Gao, les bras grêles, les jambes minces, les torses étroits, aux pieds rudes comme des chênes, aux corps hauts comme des rochers, concevait la petitesse et la fragilité de l'homme, l'humble vie errante qu'il était sur la face des savanes. Il songeait aussi aux lions jaunes, aux lions géants et aux tigres qu'il rencontrerait dans la forêt prochaine et sous la griffe desquels l'homme ou le cerf élaphe sont aussi faibles qu'un ramier dans les serres d'un aigle.